Merci de vous joindre à nous sur Radio Orient. Il est tout juste 17h, le journal Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, la situation est stable en Gironde, mais la vigilance reste de mise. Trois points chauds subsistent dans le secteur de Samos. Plus de la moitié des 220 000 personnes évacuées retournent chez elles et l'autoroute A63 a rouvert. C'était une promesse du gouvernement. 33 000 climatiseurs d'appoint ont été livrés à des hôpitaux et des EHPAD, des appareils dont la robustesse est jugée inadaptée par la CGT. L'armée israélienne a de nouveau frappé à Gaza, bilan 4 Palestiniens tués, dont 2 enfants en Cisjordanie. L'ONU alerte contre la multiplication des violences des colons et des annexions territoriales qui ne font qu'empirer. Bonjour. En Gironde, un cap a été franchi dans la lutte contre le méga-feu, toujours stabilisé après avoir ravagé 42 000 hectares. Les recensent plus que 3 points chauds dans le secteur de Somos à la faveur d'une météo plus clémente. Quelques 3 300 pompiers restent mobilisés, épaulés par 1 500 militaires, 1 250 policiers et gendarmes et 24 moyens aériens. La prudence reste toutefois de mise. 240 km de lisière doivent encore être sécurisés et le risque de reprise demeure important. Plus de la moitié des 220 000 personnes évacuées ont désormais été autorisées à rentrer chez elles et l'autoroute A63 a rouvert. Le bilan fait état de 230 pompiers blessés depuis le début de cet incendie, le plus grave en France depuis 1949. Dans le Var, cette fois, le feu de Brignoles ne progresse plus après avoir parcouru 130 hectares et provoqué 650 évacuations. Près de Dijon, l'incendie de Couchet est contenu, mais pas encore fixé, après avoir parcouru 141 hectares. Lors d'un point de presse tenu ce matin, le ministre de l'Intérieur a affirmé que 70% des incendies sont d'origine criminelle. Laurent Nunez a également fait le point ce matin sur les enquêtes menées depuis le début de cette vague de feu. Le ministre de l'Intérieur fait état de 275 interpellations et souligne la part importante des incendies d'origine criminelle. On écoute Laurent Nunez.
Mais je lançais vraiment un appel de grande fermeté. Voilà. On a procédé depuis le début de cette séquence, hein, il faut quand même le savoir, à 275 interpellations. 275 interpellations qui se sont traduites par 31 détentions, soit personne écrouée parce que condamnée, soit personne en détention provisoire en attente de leur jugement. Mais c'est ce chiffre, 275 interpellations, il faut avoir en tête que la répartition entre ce qui est criminel, volontaire, et ce qui est, je ne vais pas parler d'accident parce que c'est de l'imprudence et de la négligence, c'est 70-30. Donc dans 70% des cas, ces incendies sont criminels.
Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, et la France n'est pas la seule à faire face à ces incendies. Plusieurs pays d'Europe n'ont pas été épargnés. En Espagne, nette amélioration près de Madrid où l'incendie est désormais stabilisé avec presque plus de flammes permettant la levée de l'urgence nationale. Mais à la frontière portugaise, un nouveau feu a ravagé plus de 11 000 hectares en seulement 24 heures dans la province de Zamora et entraîné l'évacuation de plus de 800 personnes. La vigilance reste très élevée dans le pays en pleine vague de chaleur. En Grèce, cette fois, plus de 300 pompiers luttent contre 2 incendies en Crète où quelques 8 000 personnes ont été évacuées. La situation s'améliore autour d'Agia Gallini, mais un nouveau foyer s'est déclaré à une soixantaine de kilomètres alors que les vents atteignent jusqu'à 120 km/h. 3 pompiers ont péri dans les incendies en Grèce, dont 2 en Crète. Et le Premier ministre prévient que le pays s'attend à des jours difficiles. Et puis enfin en Turquie, la lutte contre les incendies se poursuit dans les régions touristiques du sud et de l'ouest avec plusieurs reprises de feu attisées par des vents violents. À Ayvalık, 5 avions, 6 hélicoptères et 850 hommes sont mobilisés tandis que les opérations se poursuivent autour d'Antalya et de Fethiye. Sur 115 incendies recensés depuis mercredi, 110 avaient été maîtrisés avant la reprise ou l'apparition de certains foyers. Direction le Proche-Orient, à Gaza, 4 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués ce jeudi dans des frappes israéliennes, selon la défense civile et des hôpitaux du territoire. Ces frappes interviennent alors qu'une délégation du Hamas est au Caire pour des discussions visant à consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025. L'armée israélienne affirme avoir visé dans la nuit plusieurs infrastructures du mouvement palestinien. En Cisjordanie occupée cette fois, la situation continue de se dégrader. 2 ans après l'avis de la Cour internationale de justice déclarant illégale l'occupation israélienne des territoires palestiniens, l'ONU alerte sur une violence des colons et une annexion territoriale qui ne font qu'empirer. Les précisions de Selma Darlaoui.
Oui, Nadia, en Cisjordanie, l'ONU s'alarme d'une violence qui atteint des niveaux sans précédent. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dénonce la multiplication des attaques de colons israéliens, mais aussi la création de colonies et d'avant-postes. Depuis jeudi dernier, 8 Palestiniens et 2 militaires israéliens ont été tués. Vendredi, des affrontements entre colons israéliens et palestiniens dans le village de Tel ont fait 6 morts, 4 Palestiniens et 2 Israéliens. L'armée israélienne a ensuite lancé un raid à Naplouse et dans plusieurs localités voisines, annonçant l'arrestation de dizaines de Palestiniens dans le cadre de ce qu'elle a qualifié d'une opération antiterroriste. Selon l'ONU, des communautés palestiniennes ont également été attaquées, des biens détruits ou confisqués et des mosquées incendiées. Les restrictions de circulation se sont encore durcies, limitant l'accès aux services essentiels. La violence s'est fortement intensifiée en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza. Au moins 1097 Palestiniens ont été tués par les forces ou les colons israéliens depuis le 7 octobre 2023, selon des chiffres palestiniens. L'ONU appelle désormais les États tiers à agir de toute urgence pour mettre fin aux violences, aux expulsions et à l'occupation israélienne.
Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président du Parlement libanais, Nabih Berrich. Au menu, la situation politique et sécuritaire au Liban et la poursuite des opérations israéliennes. Le président français a réaffirmé le soutien de Paris à la souveraineté et à la stabilité du Liban, notamment à son armée et aux efforts de reconstruction. Nabih Berrich a appelé à intensifier les efforts internationaux pour obtenir le retrait israélien et insister sur le maintien de la FINUL, jugée essentielle à l'application de la résolution 1701. Sur le terrain, dans le sud du pays, de violentes explosions retentissent la nuit dernière dans plusieurs localités du secteur ouest et jusqu'à la ville de Tyr. Selon l'agence de presse libanaise, l'armée israélienne a mené une série de déflagrations à Mansouri, Majd al-Zoun et dans la ferme de Bayout al-Sayed. Des tirs à l'arme automatique ont également été signalés en direction de Wadi Hujair et Wadi Slouqi. Le répit a été de courte durée entre les États-Unis et l'Iran. Les échanges de frappes ont repris entre les deux pays hier. Une nouvelle série de bombardements sur l'Iran par Washington et des tirs de représailles par Téhéran. Pendant ce temps-là, le Pakistan, pays médiateur au sein du conflit, affirme que les négociations continuent en vue d'une désescalade. La situation ne paraît pas aussi évidente, Clara Dubanchet.
Nous allons les frapper fort parce que c'est à notre tour. Voici les mots du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche hier soir. Nous, ce sont les États-Unis, ce sont les Iraniens. Et de fait, les États-Unis ont bien répondu à la tentative d'attaque surprise des Iraniens contre les forces américaines il y a 2 jours. Cette nuit, dans les bombardements, 3 civils ont été tués dans le sud du pays, ainsi que 3 gardiens de la Révolution dans le nord-ouest. Parallèlement, le Koweït, allié régional des États-Unis, annonce un mort dans une frappe iranienne. La Jordanie dit avoir intercepté 5 missiles tirés depuis l'Iran ce matin. Et l'Égypte révèle qu'une frappe de drone d'origine inconnue a mis le feu à des navires de stockage de gaz. Alors, lorsque le Pakistan certifie, après de nouvelles séries de bombardements, que les négociations américano-iraniennes sont en cours sur la désescalade et la gestion du détroit d'Ormuz, cela semble invraisemblable. Depuis début juillet, moment où l'accord de cessez-le-feu a volé en éclats entre l'Iran et les États-Unis, la diplomatie pakistanaise affirme s'efforcer à trouver un accord de paix entre les différentes parties. Sauf que, depuis un mois, il n'est plus uniquement question de l'Iran et des États-Unis. D'un côté, l'Iran vise les bases américaines implantées dans ses pays voisins et alliés de Washington. De l'autre, le conflit s'est aussi étendu à un autre front, emportant rebelles houthis du Yémen et l'Irak, tous deux alliés de l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite. Et justement, un chercheur saoudien, Hesham Al-Ghanam, spécialiste des questions de sécurité, décrit une nouvelle phase dans ce conflit. C'est ce qu'il appelle la guerre par procuration, la poursuite de la guerre directe par différents moyens, en mobilisant d'autres États comme intermédiaires. Et au sein de ce conflit-là, cela signifie continuer à étendre les frontières de la guerre, coûte que coûte.
Merci Clara pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion du 27e anniversaire de son accession au trône, le roi Mohamed VI a dressé le bilan des transformations du Maroc, mettant en avant la stabilité du royaume, une croissance de 4,9% en 2025 et l'essor de l'industrie. Le souverain a insisté dans son discours à cette occasion sur la souveraineté économique, énergétique et alimentaire, ainsi que sur le soutien aux PME et à l'investissement. À l'approche des législatives, il a appelé à poursuivre les réformes et à ouvrir un nouveau cycle de développement. La Turquie a déployé 5 chasseurs F-16 en Estonie dans le cadre de la mission de police aérienne renforcée de l'OTAN stationnée sur la base d'Amari jusqu'au 30 novembre. Ils contribueront à la protection de l'espace aérien des pays baltes. Ankara prendra vendredi le relais du Portugal dans une région confrontée à une hausse des intrusions de drones depuis la guerre en Ukraine. En Argentine, le gouvernement de Javier Milei veut interdire l'entrée dans le pays aux étrangers diffusant ou incitant à des messages de haine contre l'Argentine ou sa population. Le décret prévoit également la possibilité d'expulser les personnes concernées. Le texte exclut toutefois les critiques politiques, idéologiques, académiques ou citoyennes et devra être soumis au Parlement. 4 migrants sont morts lors de 2 tentatives de traversée clandestine de la Manche au large de Dunkerque et du Pas-de-Calais. Un naufrage près d'Ardelot a également fait 6 blessés légers, dont un enfant d'un an. Ces décès portent à au moins 14 le nombre de personnes mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la Manche. Retour en France, Sébastien Lecornu veut intensifier la lutte contre la maltraitance animale et demande au gouvernement des mesures concrètes d'ici au 1er octobre. Il prévoit notamment de renforcer les sanctions, de lutter contre les élevages clandestins en ligne et d'améliorer le contrôle des adoptions. Le Premier ministre souhaite également aller vers l'interdiction de l'utilisation des chiens dans la recherche scientifique. Face aux épisodes de forte chaleur, le gouvernement renforce l'équipement des hôpitaux et des EHPAD. Quelques 33 000 climatiseurs d'appoint ont été livrés, a annoncé la ministre de la Santé, dépassant ainsi l'objectif fixé lors de la canicule de juin. Interrogée sur LCI, Stéphanie Rist présente cette mesure d'urgence comme un moyen d'améliorer les conditions de travail des soignants et le confort des patients. On l'écoute.
Je vous annonce aujourd'hui que la promesse du Premier ministre de faire livrer 30 000 clims a été tenue. Elle a même été dépassée, puisqu'aujourd'hui, le 30 juillet, il y a 33 000 clims qui ont été livrés dans les établissements, ce qui va permettre un confort de travail pour les soignants et aussi, bien sûr, un confort pour les patients.
Elles sont opérationnelles ? Ces climatiseurs sont opérationnels ?
Oui, 33 000 clims ont été livrés. Vous savez, en tant que ministre, j'ai réussi à débloquer une enveloppe de 100 millions d'euros pour que les directeurs d'établissement puissent commander les besoins, puisque tous les hôpitaux n'en ont pas besoin. On a refait aussi 40% des hôpitaux, donc il y a des hôpitaux qui sont rafraîchis ou climatisés, mais ceux qui en avaient besoin, qui ont fait des demandes, on est à 33 000 clims livrés par rapport aux besoins qui avaient été réclamés.
Donc vous le dites aujourd'hui, il y a des hôpitaux en France qui n'avaient pas de climatiseurs, la climatisation n'existait pas dans ces hôpitaux, désormais ils le sont.
Ils sont livrés par des climatiseurs d'appoint, qui est une mesure d'urgence que nous avons prise et que le Premier ministre s'est engagé. Cette promesse a été tenue et même dépassée, puisqu'à ce jour, Nous sommes à 33 000 climatiseurs livrés.
Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, et la réponse est jugée toutefois insuffisante par la CGT. Le syndicat dénonce du matériel grand public livré dans l'urgence et dont la robustesse serait inadaptée à une utilisation intensive dans les établissements de santé. Un mot de sport pour finir. Les sabreurs français sont champions du monde après leur victoire face à la Corée du Sud 45 à 31 à Hong Kong. Il s'agit du seul titre tricolore de ces mondiaux et du premier sacre mondial par équipe au sabre masculin depuis 2006, avec 4 médailles au total, toutes au sabre. La France termine 3e au classement des nations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à Mohamed Yamout pour la réalisation. Je vous retrouve à 18h pour un point de l'actualité. Excellente suite de programme sur Radio Orient.